belge qui d'ailleurs qui il y a pas une autre long passé.
Yeah,
yeah, oh, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel. Après ce punk, nous allons passer à une autre période et à un autre lieu de l'histoire. On va aller au Kurdistan. Alors le Kurdistan, c'est un peu une espèce de pays imaginaire qui n'existe pas, puisque ben, il n'y a pas de pays pour l'instant. Et donc c'est un peuple qui se situe entre la Turquie, l'Irak, la Syrie et l'Iran. Donc on a rencontré un journaliste belge qui travaille pour une télé kurde qui est diffusée à partir de Belgique au Kurdistan. Donc c'est un peu particulier. Mais lui est spécialiste et donc il connaît très bien le Kurdistan. Il y a été de nombreuses fois. Et pour commencer, il va nous expliquer justement qui sont les Kurdes et quelle est leur histoire. Est-ce que c'est un peuple, est-ce que ce peuple a déjà eu un pays? Et si oui, comment cela s'est passé?
Mais ils ont un pays, oui, un État, non. Et donc, un pays, ils ont ça depuis très, très longtemps. Les Kurdes se disent les descendants des Mèdes. On parle pour la première fois des Kurdes il y a 4000 ans avant Jésus-Christ, dans une région qu'on appelle ou qu'on appelait la Mésopotamie. C'est quand même connu dans notre livre d'histoire. Une Mésopotamie qui est traversée par deux fleuves historiques, le Tigre et l'Euphrate, et c'est ce qu'on appelle dans nos livres d'histoire le berceau de la civilisation occidentale. Donc c'est quand même pas rien du tout. C'est une région assez vaste. C'est pas un peuple qui vit sur 50 coins du monde. Non, c'est une géographiquement assez déterminée. Mais donc sous l'Empire ottoman, pour faire un grand saut, sous l'Empire ottoman, il y avait les Kurdes qui vivaient en tant que Kurdes dans leur Kurdistan. Mais l'Empire ottoman, c'était un empire sans frontières 100% définies. Donc les peuples étaient là, mais les frontières étaient plutôt transcendantes. Donc les Kurdes n'ont pas eu un État, mais ils étaient un peuple comme beaucoup de peuples dans l'Empire ottoman. Il y a un grand changement à la fin de la Première Guerre mondiale, parce que là, l'Empire ottoman a fait le mauvais choix. Hein, il a fait le choix de s'allier à l'Allemagne. Donc, en tant que perdant de la Première Guerre mondiale, l'Empire a éclaté. Il y avait déjà des défections avant, donc la Bulgarie et tout ça, c'était déjà détaché de l'Empire ottoman avant. Mais donc, la fin de la Première Guerre mondiale signifie la fin de l'Empire ottoman, et donc là, les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, notamment la Grande-Bretagne et la France, vont redessiner la carte. Et c'est là où sort la carte actuelle du Moyen-Orient. Donc les frontières sont tracées d'une façon assez arbitraire, selon les intérêts, pas des peuples sur place, mais selon les intérêts des deux vainqueurs, la Grande-Bretagne et la France. Les États-Unis sont arrivés plus tard. Hein, donc c'est là où l'Irak a été donné à la Grande-Bretagne, le Liban à la France, etc. Sauf la Turquie. Et donc, parce qu'en Turquie, il y a eu une révolution bourgeoise, si vous voulez, avec en tête les jeunes Turcs, Mustafa Kemal, qui ont pris le pouvoir et qui ont, contre la volonté des empires à l'époque, établi un État turc, l'État turc actuel. Et donc, ça, c'est très important, cette division coloniale, mais aussi avec la création de l'État turc actuel, c'est très important pour comprendre la situation actuelle des Kurdes.
Sunay mwa war mara.
étions au Kurdistan juste au moment de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Première, oui. On va commencer comme ça. La Première Guerre mondiale, au moment où les États se sont divisés, toute cette partie du monde. Et alors, qu'en est-il après ?
Il y a, disons, dans la partie... donc, le Kurdistan a été divisé en quatre parties. Donc, d'où les Kurdes sont devenus d'un coup des minorités dans les États autour. Donc, il y a des Kurdes en Irak, comme aujourd'hui, qui font 20 à 25% de la population en Irak, qui est... les Kurdes vivent dans le nord de l'Irak, mais aussi à Bagdad, aussi même dans le sud, mais la plus grande bataillon kurde, disons, est concentré dans le nord de l'Irak. En Iran, c'est dans l'est de l'Iran que les Kurdes se concentrent. Ils sont aussi une minorité en Iran. En Syrie, la même chose, plutôt dans le nord, le nord-est. Et en Turquie, les Kurdes se concentrent dans le sud-est de la Turquie. Donc ça, c'est après la fin de la Première guerre mondiale. Donc, entre la fin de la Première Guerre mondiale et aujourd'hui, il y a eu un développement, il y a deux évolutions, si vous voulez, importantes. Il y a eu des migrations, émigration et immigration. Donc les Kurdes se sont déplacés en Turquie vers Istanbul, Ankara, Izmir. Donc il y a un certain mouvement démographique. Et aussi, il y a eu une évolution politique, sociologique différente. En Irak, ça a été différent qu'en Turquie. En Iran, ça a été différent qu'en Syrie. Donc aujourd'hui, la question de la langue, de différents dialectes qu'ils parlent, aussi de l'histoire, mais aussi de la culture, souvent, quand je vais sur place, souvent je me pose la question si les Kurdes de Turquie n'ont pas plus de lien avec des Turcs de Turquie qu'avec des Kurdes d'Irak, si vous voyez un peu. J'exagère peut-être, mais il a vraiment eu une évolution culturelle, sociologique, politique différente que tant qu'aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui c'est un peuple kurde, mais il y a quand même des différenciations assez importantes. Donc cette partition coloniale a fait en sorte qu'il y a eu vraiment quatre évolutions différentes, mais n'empêche qu'aucun des quatre États n'a réussi à assimiler le peuple kurde. Hein. Donc il y a toujours les Kurdes qui se disent kurdes, qui s'identifient à leur identité populaire et qui utilisent toujours la langue kurde à côté de la langue perse ou turque ou arabe. Donc,
Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu la situation dans chaque pays, justement, pour voir comment ça s'est... Comment ça s'est justement distingué entre en particulier l'Irak et la Turquie, mais peut-être aussi en Syrie et puis en Iran.
Oui, on peut peut-être commencer avec la Syrie et l'Iran. Donc en Syrie, il y a 200-300 000 Kurdes. Hein. C'est la partie la moins importante dans les quatre pays. Et donc il y a les Kurdes qui vivent là depuis très longtemps, mais il y a aussi beaucoup de Kurdes qui sont arrivés et qui n'ont pas leur passeport, qui n'ont pas une identité, qui n'ont pas une identité formalisée.
Ils sont arrivés de où ?
Ils sont arrivés de différentes parties, Turquie où il y a pas mal de réfugiés de Turquie. Hein, pendant les coups d'état militaires en Turquie, les gens qui se sont enfuis de la Turquie vers l'Irak, vers la Syrie, vers l'Iran. En Syrie, les réfugiés, ils n'ont jamais eu une carte d'identité. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas acheter de la terre, ils ne peuvent pas acheter une maison. Ils sont des apatries, en fait. Et c'est ça un peu le problème actuel en Syrie. En Iran, il y a eu un mouvement très important, le PDKI, le Parti démocratique du Kurdistan iranien, avec un des très grands dirigeants kurdes, grand intellectuel, Gassemlou, qui a été assassiné par les services secrets iraniens. Depuis quand ce mouvement a eu des difficultés. Mais les deux partie kurde la plus importante se trouve en Irak et en Turquie. En Irak, c'est un mouvement kurde qui s'est développé avec le pouvoir central d'une façon conflictuelle et consensuelle. Donc, il y a eu des accords avec le parti base et le lendemain, il y avait la guerre. Et le lendemain, il y avait de nouveau des alliances. Donc, pour comprendre la mouvance kurde en Irak, Il faut comprendre que c'est un mouvement qui est plutôt basé sur le clan, hein, donc le Barzani et Talabani. Et ces deux partis kurdes qui sont assez régionalistes, hein, contrairement au PKK en Turquie, qui est un mouvement émancipateur de gauche. Donc ça pose problème pour les choix politiques que font ces partis kurdes. Donc en Irak, la mouvance kurde a été très opprimée par le pouvoir bassiste. Mais à un moment donné, en 1974, Barzani conclut un accord avec Saddam Hussein, dépose les armes, et à ce moment-là, c'est Talabani qui continue la lutte armée et qui a constitué son propre parti, l'UPK. Donc ça, c'est un peu les deux partis kurdes en Irak.
Et ces deux mouvements, c'était différent d'un point de vue idéologique ou c'était juste une histoire de clan?
C'est plutôt des partis, à mon avis, conservateurs. Hein, donc, même si la mouvance, le parti de Talabani, de l'UPK, fait partie de l'International Socialiste en tant qu'observateur, c'est des partis qui sont quand même, par exemple, c'est très territorialisé. Hein, donc, on dit Barzani Land, Talabani Land. Hein, donc la région kurde, pendant les dernières élections en Irak, il avait une seule alliance, mais les sièges au sein des deux partis kurdes étaient déjà partagés. Donc tous ceux qui vivent dans Barzani Land sont pour le PDK et l'autre sont pour l'UPK, 50-50% au Parlement kurde. Voilà, donc ça c'est un peu leur choix politique pour gérer la région kurde en Irak.
Qui est une région autonome ?
Qui est autonome après la première guerre du Golfe, comme on dit ici, mais dans la région, on appelle ça la deuxième guerre du Golfe, parce que la première, un arrangement imposé à l'Irak pour le no-fly zone. Hein, donc c'était interdit pour l'armée irakienne de survoler la zone kurde, et donc cette zone kurde a eu un de facto autonomie, aussi avec un programme de l'ONU, pétrole contre nourriture. Donc pendant cette période, après 1991, cette région a eu quand même pas mal de je ne vais pas dire privilèges, parce que vu la souffrance qu'a connue le peuple kurde en Irak, on ne peut pas parler de privilèges. Mais ils ont eu un traitement meilleur que le reste du pays irakien, ce qui a permis une création d'une meilleure économie, aussi quelques institutions. Donc il y a eu la création d'un parlement kurde dans cette région autonome. Il y a une université en langue kurde. C'est quand même quelque chose qui fait baver, par exemple, les Kurdes de Turquie.
Justement, après la deuxième guerre du Golfe, enfin en tout cas celle du début des années 90, il y a eu les Américains, manifestement, on sollicitait les Kurdes pour qu'ils se révoltent et qu'ils tentent de renverser le pouvoir. Et ça s'est soldé par des massacres très, très violents. Est-ce qu'on peut revenir sur cette utilisation du peuple et de la mouvance kurde contre Saddam Hussein à ce moment-là?
Mais ce n'est pas les Kurdes qui ont massacré les Irakiens. Hein. Je ne comprends pas bien votre question. Donc les massacres ont eu lieu avant la guerre du Golfe. Hein, donc il y a eu Saddam Hussein qui a gazé des milliers de Kurdes à Halabja en 88. Et donc il y a eu d'autres massacres. Il y a eu aussi une tentative par Saddam Hussein de arabisation de la région kurde, notamment aussi Kirkuk, où le pouvoir central a essayé de placer des Arabes à la place des Kurdes pour faire en sorte que la revendication kurde pour l'autonomie n'aurait plus de sens. Donc ça n'a pas vraiment réussi cette politique. Mais donc ce qui est le plus important, c'est que les Kurdes en Irak ont connu une longue période de souffrance et de répression. Hein. Et donc, ça a pris fin avec la guerre du Golfe suite au Koweït. Et donc, avec la dernière guerre du Golfe, les Kurdes d'Irak se sont mis 100% à côté des Américains. Et donc ça, d'autres Kurdes, notamment la Kurde de Turquie, mais aussi la gauche arabe ou la gauche européenne, trouve cela un peu exagéré parce que ce n'est pas la première fois dans l'histoire que les Kurdes d'Irak font un mauvais choix. Hein. Donc, ils se sont déjà alliés avec Israël début des années 70. Et donc, c'est souvent, ils se font souvent utiliser par des pouvoirs régionaux contre un autre pouvoir régional. Et à la fin du compte, c'est eux qui payent le prix. Donc, beaucoup de gens dans la région ou des spécialistes dans la région considèrent que l'alignement l'alliance des Kurdes d'Irak avec l'armée de George Bush n'est pas un choix très intelligent. Donc c'est compréhensible vu la souffrance du passé, mais ils doivent comprendre qu'ils ne vivent pas à New York, qu'ils vivent là dans la région kurde, entourée par des Arabes, les Turcs, les Turkmans, les Iraniens et tout ça. Donc ils doivent quelque part quand même trouver une solution de vivre ensemble avec des autres peuples dans la région et trouver une forme institutionnelle pour gouverner cette forme.
Et les Américains, est-ce qu'ils financent justement les partis kurdes irakiens et...
Mais les partis kurdes irakiens sont, je ne vais pas dire directement financés, mais ils sont quand même aidés par les Américains à cause de leur fidélité avec la dernière guerre. Donc ils sont entraînés. Ils sont armés, mais pas beaucoup. Hein. Donc les Américains ne vont pas surarmer les Kurdes parce qu'ils veulent quand même garder le contrôle militaire sur la région eux-mêmes. Ça c'est le truc classique de laisser la politique aux gens qui vivent là-bas, mais garder le contrôle militaire et économique pour eux. Donc ça, c'est le schéma classique. Et ça se confirme un peu avec les dernières élections. Mais il y a quand même des contradictions avec ce schéma, parce que je vois difficilement les chiites, mais aussi les Kurdes, évoluer vers une situation où les Nord-Américains vont utiliser tout le pétrole, toutes les ressources pétrolières et économiques pour eux, tandis qu'ils vont laisser un peu la gestion politique pour les Irakiens. Donc là, il y a une contradiction, et je crois que les Américains n'ont pas encore vraiment, qui savent pas encore vraiment comment ils vont gérer cette situation dans le futur proche.
Tu nous parlais d'une différence entre les chiites et les Kurdes, mais les Kurdes, ils ont quelle religion finalement?
Sunnite, oui. En général, c'est sunnite. C'est un peu, on assiste à un recul, parce qu'à l'époque, on ne s'appelait pas sunnite, chiite ou chrétien, on s'appelait nasserien, nationaliste, socialiste, communiste. Aujourd'hui, tu as vraiment un recul religieux, ethnico-religieux dans la définition de soi-même. Donc, mais les chiites, bon, aujourd'hui, ils s'appellent chiites, sunnites et les Kurdes, mais les Kurdes, en très grande majorité, sont d'origine sunnite.
Quelle est la différence justement entre la Turquie et l'Irak?
Mais en Turquie, il y a une toute autre histoire. Hein. Donc la Turquie, il faut voir comme un grand pays qui a fait une grande révolution bourgeoise avec l'aide des Kurdes. Hein. Mustafa Kemal a fait sa révolution avec l'aide des Kurdes. Dès qu'il s'est mis au pouvoir, il a réprimé, il a foutu les Kurdes en dehors du Parlement en Turquie. Et donc, Ils ont aidé à la création d'un État bourgeois moderne. Mais comme le monde était déjà partagé en colonies, cette bourgeoisie n'a pas eu l'occasion de s'enrichir avec le pillage des colonies, ce qui a permis à la France, à la Grande-Bretagne, à la Belgique de s'enrichir sur la souffrance des autres peuples. La Turquie n'a pas eu ce moyen. Donc, ça explique que c'est une bourgeoisie assez faible qui a besoin de coups d'État militaires régulièrement dans le XXe siècle pour se maintenir au pouvoir. Donc c'est un très grand pays où il y a 52 peuples. Hein, à part des Turcs et des Kurdes, il y a encore 50 d'autres. Donc vu la faiblesse de l'État turc, de sa couche dirigeante, si vous voulez, ils ont donc peur de perdre leur domination. Et donc les Turcs sont arrivés dans la région 7 siècles après Jésus-Christ, hein, donc c'est assez tard. Donc pour se maintenir au pouvoir, ils ont une idéologie assez nationaliste de droite. Donc, ils essayent d'imposer le nationalisme turc aux autres peuples. Ce qui veut dire un État turc, une langue, le turc, un peuple, le turc. Et donc, cette idéologie de droite nationaliste est enseignée dans les écoles tous les jours. Hein. Donc, les Kurdes en Turquie apprennent tous les jours qu'ils sont turcs et que la seule langue officielle, c'est le turc. Et donc, cette idéologie, cette tentative d'assimiler les autres peuples a échoué. Hein. Aujourd'hui, il faut constater que la Turquie fait toujours, il y a toujours des dizaines de peuples qui font partie de la Turquie, dont le peuple kurde qui fait 25% de toute la population en Turquie. Donc 25%, un quart de la population en Turquie est kurde, avec une, grâce à la lutte de la résistance kurde, avec une, de plus en plus une identité kurde. Donc les gens se disent de plus en plus qu'ils sont kurdes. Donc,
nous sommes toujours avec Chris, journaliste belge, spécialiste des Kurdes, et nous aimerions savoir maintenant comment justement s'est mise en place la lutte de résistance des Kurdes en Turquie.
Il faut bien comprendre que la résistance kurde a une très longue histoire. Hein. Donc il y a eu beaucoup de soulèvements des Kurdes dans les différents siècles. Si vous lisez l'histoire des Kurdes, ils sont connus comme des bons guerriers. Ça ne date pas d'hier. Hein. C'est des bons guerriers depuis très, très, très longtemps. Donc, mais pour prendre l'exemple le plus récent, il y a eu la création du PKK, si vous voulez, en 78. En Belgique, on dit 78, c'est plus facile. Donc, c'était une création d'un parti politique de gauche, d'extrême gauche, comme des dizaines d'autres partis politiques en Turquie. Ça ne faisait pas de différence avec les autres partis. La différence est venue après le coup d'État turc en 80-81, où tout espace politique a été asphyxié. Donc tout espace politique en Turquie pour faire de la politique de gauche était terminé. Donc c'était plus possible de faire des réunions publiques ni à Istanbul, ni et certainement pas dans la région kurde en Turquie. Et donc là, le PKK a adopté la stratégie de la lutte armée. Hein. Et donc c'est avec cette stratégie, donc la direction du PKK se trouvait déjà au Liban, où ils sont noués des liens très étroits avec les guérilleros, les fedayins palestiniens. Et donc, ils sont allés dans les villages, dans les villes, au Kurdistan de Turquie, en disant il reste une seule solution, c'est la lutte armée contre l'État turc. Et c'est dans cette période-là où il y a eu beaucoup de confrontations militaires, où des petites unités de guerrilleros ont attaqué des bases militaires de l'armée turque. Et donc c'est dans cette période que le PKK a obtenu un soutien de masse, ce qui l'a différencié avec tous les autres partis d'extrême gauche en Turquie. Et donc ce soutien de masse, les Palestiniens le confirment, hein, ils ont vu la différence, l'afflux dans la vallée de Beka dans les années 80 au Liban. Ils ont vu la différence entre une organisation avec un soutien de masse comme le PKK avec les autres. Donc les années 80 ont été extrêmement sanglants, avec plus de 30 000 morts, mais où l'armée turque a subi des pertes importantes. Donc la guérilla kurde du PKK, à un moment donné, contrôlait des villes entières.
Comment fonctionnait cette guérilla, et quand ils prenaient des villes, comment était organisée la vie locale?
Mais on parle d'il y a plus de 15 ans, hein, parce qu'il faut bien dire qu'après 92, la stratégie a changé. Mais jusqu'à 92, c'était une guérilla de type guévariste, où il y avait égalité, il y a toujours égalité homme-femme, où il y a beaucoup de femmes qui sont incluses dans toutes les tâches de la guérilla, pas seulement faire la cuisine, hein, donc c'était vraiment dans toutes les tâches de la guérilla, jusqu'au plus haut niveau, une guérilla de gauche, émancipation, avec une vision marxiste de la société, qui voulait, qui dans, au niveau international avait des contacts avec beaucoup d'autres mouvements ou d'organisations de la gauche révolutionnaire, et donc qui était dans cette période des années 80 quand même, en Amérique centrale, il y avait eu la révolution sandiniste, il y avait eu en Salvador une grande poussée révolutionnaire, ailleurs aussi, donc elle faisait partie de cette grande mouvance mondiale, c'était avant l'implosion du bloc de l'Est. Donc ça n'a pas pris fin, mais cette dynamique s'est heurtée à un constat. Donc, en 90-91, la Turquie reçoit une aide très importante de haute technologie militaire des États-Unis et d'Israël. Et donc, c'était quand même extrêmement dur de battre la deuxième armée de l'OTAN. Hein. Donc, la Turquie, c'est la deuxième armée de l'OTAN après les États-Unis. Plus important en nombre de soldats que la France, la Grande-Bretagne et tout ça. Donc, battre une armée comme cela avec l'aide technologique d'Israël et des États-Unis, c'était extrêmement difficile. Donc là, il y a eu un changement de tactique et Abdullah Öcalan a déclaré son premier cessez-le-feu et a demandé une solution politique pour la question kurde. Et donc, la réponse de l'État turc, c'était, ça n'a étonné personne, c'était on ne se met pas autour de la table avec des terroristes. Et donc, le premier bon geste de la part d'Abdullah Öcalan, dirigeant du PKK, toujours jusqu'à aujourd'hui en fait, hein, a été cesser le feu, solution politique et sans se désarmer. Hein. Donc c'était pour pousser l'État turc pour faire des concessions substantielles pour le peuple kurde en Turquie.
Alors nous, Abdullah Öcalan, on le connaît parce que tous les 1er mai à Paris, il y a d'immenses portraits de lui, y compris, mais on viendra un petit peu sur la représentation des Kurdes en France. Qui est Abdullah Öcalan? Il est le dirigeant d'une organisation marxiste, mais lui, personnellement, il est qui? Parce que c'est une espèce de figure comme ça, on le voit sur des grands drapeaux, Marx, Lénine et Öcalan. Il a vraiment cette importance politique-là?
Vous trompez avec l'extrême gauche turque. Hein. Donc ceux qui filent avec Marx, Engels, Lénine et Mao, c'est pas les Kurdes du PKK, c'est l'extrême gauche turque, hein, des différents groupes. Et c'est normal parce que tout le monde personne fait cette distinction. Les Kurdes de Turquie filent avec des milliers et des milliers, défilent avec des milliers et des milliers lors du 1er mai, souvent avec les portraits d'Öcalan aussi, oui, mais donc avec les femmes, avec leurs enfants en poussette, donc c'est très familial, c'est très mouvement populaire. C'est un mouvement qu'on peut dire, on dit souvent que c'est autoritaire, hein. Je crois que c'est vrai qu'il y a un certain autoritaire dans ce mouvement, mais quand même, j'ai été dans les montagnes chez le PKK début novembre de 2004. On a discuté avec la direction politique militaire et aussi avec beaucoup de guérilleros sur place. Aujourd'hui, il y a dans ce mouvement beaucoup de discussions, hein, sur la tactique, sur la stratégie, beaucoup de consultations, il y a beaucoup de divergences aussi, il y a beaucoup de confusion sur, parce que la situation est extrêmement compliquée. Je ne sais pas comment une organisation française agirait dans une situation aussi compliquée. Donc moi, je dois dire que ce mouvement m'étonne par son esprit ouvert. Donc tu peux vraiment poser les questions que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, il y a une ligne politique qui se définit, mais c'est pas un seul homme qui définit et tout le monde doit marcher derrière. C'est pas comme ça que ça marche.
En même temps, Öcalan, il a sûrement fait des études, il a un parcours personnel qui l'a mené justement à créer ce PKK en 78.
Oui, personnellement, je ne connais pas son curriculum vitae à 100%. Je sais qu'il a créé avec un petit groupe en 78 le PKK à Diyarbakır. Il est allé au Liban assez vite, juste avant le coup d'état militaire, et depuis la vallée de Beka, il a dirigé son organisation avec une main de fer, avec consultation aussi. Il a fait le choix de quitter la Syrie. C'était la Syrie qui a été mise sous pression par la Turquie avec l'arme de l'eau. Donc la Turquie a utilisé l'eau du Tigre et de l'Euphrate pour faire le chantage contre la Syrie, parce que la Syrie reçoit l'eau. Donc la Syrie devait évacuer Öcalan, sinon il y avait des représailles. Et donc Öcalan a fait le pari d'aller en Europe. Et son pari était, je vais pousser dans l'Union européenne pour une solution politique pour le peuple kurde. Voilà, ça c'était son choix. La réponse des Européens était nihil. Il a été reçu à Rome, mais il a été emprisonné dans une maison. Après, il s'est envolé. Aucun pays européen a voulu lui recevoir. Ça a fini en Kenya avec un kidnapping, genre James Bond. Et il finit à Imrali, dans une île sous la mer en Turquie, où il est le seul prisonnier où ses avocats peuvent lui visiter une fois tous les quelques semaines, et donc avec une grande humidité, donc sa santé, c'est pas 100%. Donc il a fait une déclaration, il fait toujours la déclaration. La dernière déclaration que j'ai lue, c'était mi-janvier, où il a critiqué très 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 fortement les Kurdes d'Irak. Il les appelait des collaborateurs avec le zionisme et avec l'impérialisme, et donc qu'ils font un repli nationaliste, tandis que pour lui, le futur du peuple kurde, c'est pas s'enfermer dans des frontières, c'est vivre avec des autres peuples et trouver une forme de gestion politique où différents peuples vivent ensemble dans une société sans exploitation. Donc on est là aujourd'hui.
Le PKK aimerait créer un pays, un Kurdistan. Quel est son rêve idéologique?
Ça c'était le rêve de créer un Kurdistan indépendant, libre et socialiste, si c'est encore possible. Donc aujourd'hui, c'est pas avec sa capture. Déjà avant sa capture, il avait des réflexions où la mouvance kurde disait c'est peut-être mieux d'essayer de trouver une solution politique avec une très large autonomie, genre un État fédéraliste à la Belge ou à la Suisse, où il y a vraiment beaucoup de compétences pour une région à dominance kurde, mais pas dire aujourd'hui un État kurde au Kurdistan de Turquie. Qu'est-ce qu'on fait avec les Kurdes à Istanbul? Il y a plus d'un million de Kurdes à Istanbul. Un État kurde en Irak, qu'est-ce qu'on fait avec Bagdad? Bagdad, c'est la plus grande ville kurde en Irak. Donc mettre des murs, des frontières entre les peuples aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, je crois qu'il a eu raison de dire qu'il y a d'autres types de solutions aujourd'hui qui sont plus modernes et plus adaptées à la réalité d'aujourd'hui.
Et le PKK a-t-il des implantations en Syrie, en Irak, en Iran?
Oui, mais c'est moins important politiquement. Mais ils ont des bases dans tous les pays. Mais donc la base principale reste en Turquie, en Kurdistan de Turquie. Oui.
Alors le PKK, est-ce qu'il a des relations? Tu nous parlais tout à l'heure d'une extrême gauche et d'une gauche turque. Est-ce qu'il y a des connexions, si on parle du cas de la Turquie, entre le PKK et les forces avancées turques?
Oui, là c'est peut-être important de parler d'une autre chose, d'une autre force politique. On est entre amis, donc on peut dire que c'est la même mouvance, c'est le mouvement kurde qui d'un côté soutient le PKK en tant que guérilla, mais aussi une force politique, et de l'autre côté, en Turquie, la mouvance kurde a essayé de créer une force politique en Turquie, dans la légalité. Et donc la première expression de cela a été DEP, c'était avec le groupe de Leyla Zana qui s'est mis sur la liste du Parti social-démocrate en Turquie et qui a obtenu 4 élus au Parlement en Turquie en 1992. Et donc, ce n'est pas le PKK, mais c'est la même mouvance kurde, disons, qui a essayé cette tactique pour obtenir de faire avancer la question kurde au sein de la Turquie, donc avec tous les moyens légaux. Donc ce parti, donc HEP, DEP, HADEP, DEHAP, aujourd'hui ça s'appelle DEHAP, c'est l'expression politique de la mouvance kurde dans la légalité de la Turquie. Il y a une articulation entre cela et le PKK qui est très intéressante. Donc le PKK n'est pas contre cela, on peut même dire, je ne vais pas dire qu'elle a créé, mais sans le soutien du PKK, ça n'existerait pas non plus. Donc il y a vraiment deux tactiques différentes pour faire avancer les droits de ce même peuple kurde en Turquie, au Kurdistan de Turquie. Donc ce qui est intéressant, c'est que les 4 élus en 1992 ont été exclus du Parti social-démocrate. Quand Leyla Zana a déclaré à la tribune de l'Assemblée nationale en Turquie, quand elle a déclaré avec son petit banderole kurde autour de la tête, qu'elle a dit « Vive la fraternité entre le peuple kurde et le peuple turc », elle a été emprisonnée pour 13 ans. Donc elle vient d'être libérée il y a un an, elle a libéré. Donc elle a passé en total 12 ans en prison en Turquie parce qu'elle a dit ça. Hein. Donc après les 4 emprisonnés, il y a eu d'autres expressions, c'est la suite hein, de HEP, il y avait DEP, HADEP, c'est très important, c'est un parti qui s'est présenté aux élections, qui a obtenu beaucoup de mairies au Kurdistan de Turquie. Donc dans la région kurde en Turquie, qui est très grande région, ils ont obtenu avec 65% de vote des maires de ce parti. Donc c'est maintenant les maires kurdes qui gèrent les grandes villes au Kurdistan de Turquie. Ce n'est pas la guérilla du PKK, parce que c'est interdit, c'est la HADEP. Mais il faut aussi savoir qu'il y a eu plus de 200 attentats contre les locaux de HADEP. Il y a eu des disparus, les derniers disparus datent de 2000, où il y avait deux cadres de HADEP qui ont essayé de créer un local de HADEP à la frontière irakienne. Ils ont disparu, ils sont morts. Hein. C'est l'armée qui les a tués. Et donc, cette expression politique est très importante pour obtenir un peu d'espace pour le peuple kurde. Et donc, cette expression politique est aussi soutenue par l'Union européenne, contrairement au PKK. Donc, le PKK n'est pas soutenu par l'Union européenne, sauf par des groupes révolutionnaires qui ne sont pas contre la lutte armée. Moi, je trouve que c'est une bonne tactique aujourd'hui, dès que tu n'as pas obtenu des choses substantielles pour le peuple kurde, de garder une force militaire kurde dans les montagnes comme quelque chose pour on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais le jeu politique se joue aussi avec ce parti kurde, HADEP et aujourd'hui DEHAP. Ils doivent toujours changer de nom parce qu'ils sont toujours interdits, chaque 2-3 ans ils sont interdits. Mais donc l'expression politique de ce parti en Turquie, ça pousse le peuple kurde vers plus de reconnaissance. Et donc, il y a des rassemblements de centaines, même avec des millions de personnes, chaque année, lors du 21 mars, lors du nouvel an kurde, le Nevros, où le peuple kurde crie son désir pour ses droits. Hein. Donc, c'est impressionnant, ça, quand même. Sen yarıyım mesti Beybilindi velat peresti Çekin kalsan yarıyım mesti Sanım yerim bin desti düşmen Çıkmaz duvara rengi bin desti Sanım yerim bin desti düşmen Çıkmaz duvara
Robin was a share. Your papa vision, Farius is the Tiger Nassen Cord. Robin was a share. Your papa vision, Farius is the Wakar the share. Vision Serbellin, Jenga Zadi, Navira was the Wakar the share. Serbilen Jenga Zadi Nabira Wasti
sur Fréquence Paris Pluriel en compagnie de Chris qui est journaliste kurde et donc nous discutions de la place de l'Union Européenne dans les luttes justement du peuple kurde.
Mais il faut savoir que la Turquie a fait sa demande officielle d'intégrer à l'Union Européenne. Ça a été adopté en principe à Helsinki, je crois en 2000 ou 2001. Donc ça a été formellement adopté en décembre dernier par le sommet de l'Union européenne où on a dit qu'on va ouvrir un processus de négociation avec la Turquie pour qu'elle devienne un jour membre de l'Union européenne. Pour faire cela, il faut que la Turquie respecte les critères de Copenhague. Les critères économiques de Copenhague, je m'en passe parce que c'est le critère ultra-libéraux. Il faut libéraliser, privatiser l'économie turque. Donc, c'est pas ça qui va aider le peuple dans la région. Ce qui peut être intéressant, c'est les critères politiques de Copenhague qui disent que la Turquie doit respecter les droits de l'homme, que la Turquie doit établir un état de droit et que la Turquie doit respecter les droits des minorités et que la Turquie doit respecter donc les droits d'expression, de libre expression. Et donc c'est un moyen pour les Kurdes d'obtenir leurs droits. On ne sait pas où ça va aboutir, mais donc c'est quelque chose que formellement, pour que la Turquie devienne membre de l'Union européenne, elle ne peut plus réprimer les Kurdes comme avant. Donc c'est quelque chose que la mouvance kurde, mais aussi les mouvements citoyens en Turquie, utilisent aujourd'hui pour dire, quand la Turquie fait des contenus à torturer ou continue à réprimer des revendications social-démocratiques, qui dit que ça c'est contraire à l'accord conclu pour devenir membre de l'Union européenne. Donc l'Union européenne ne soutient pas HADEP. Hein. L'Union européenne dit si la Turquie essaye d'interdire HADEP ou DHAP, l'Union européenne dit que ce n'est pas conforme aux critères politiques de Copenhague. Et ça, c'est un pas en arrière pour devenir membre. Donc c'est quelque chose. Hein, donc l'Union européenne n'aide pas directement HADEP. Il y a des contacts directs diplomatiques, ça oui. Et c'est quelque chose que les Kurdes utilisent aujourd'hui pour faire avancer leurs droits.
Et est-ce qu'il y a des rapports entre les partis politiques de l'Union européenne, français, les partis socialistes, communistes, ou la LCR, et les partis, justement, du Kurdistan?
Mais avec le DHAP, donc HADEP, HADEP, DHAP, il y a des... DHAP a des contacts directs avec le Parti communiste français, avec la LCR, aussi avec le Parti socialiste. Et donc, avec la droite, je ne suis pas sûr. Mais donc, le DHAP n'exclut pas tous les contacts. Hein. Donc, il y a ce lundi, à l'Assemblée nationale, une conférence organisée par des parlementaires français concernant la question kurde en Turquie. Donc il y a un grand intérêt. Ce que je, personnellement, ce qui me gêne un peu dedans, c'est que les soi-disant démocrates européens ne respectent pas la mouvance kurde en tant que telle. Donc, pour eux, il y a des bons Kurdes comme Leyla Zana et des mauvais Kurdes comme Abdullah Öcalan. Personnellement, je trouve que si tu es pour l'autodétermination des peuples, il faut respecter les choix du peuple. Et donc, le peuple kurde fait le choix de soutenir et le mouvement du PKK d'Abdullah Öcalan, et Hadep de Leyla Zana, et Dehab de Tunçer Bakirhan. Donc, pour les Kurdes, c'est un seul mouvement. Et donc, les Européens qui essayent de dire il faut désarmer, il faut arrêter la violence, tandis que la Turquie n'a fait aucun pas significatif en avant, c'est faire du chantage vis-à-vis un parti qui a vraiment... pour finir cette phrase, et c'est quelque chose de très, très fort, très important, que j'ai senti quand tu vas au Kurdistan, c'est le PKK qui a donné une conscience nationale au peuple kurde. Aujourd'hui, les Kurdes en Turquie se disent Kurdes. Et donc, à l'époque, on pointait du doigt quelqu'un qui se disait nationaliste kurde. Aujourd'hui, on pointe du doigt un collaborateur avec l'État turc. Ça, c'est un changement qui est très important.
Alors, tu nous présentes un visage un petit peu unifié, presque pacifié du peuple kurde. J'imagine qu'il doit bien y avoir des tensions plus... Tout le monde n'est pas sur la ligne politique...
Non, c'est vrai qu'il y a une grande discussion. Par exemple, le frère d'Abdullah Öcalan, Osman Öcalan, il n'était pas d'accord avec la reprise de la lutte armée, non, avec la fin du cessez-le-feu le 1er juin 2004. Et donc, il s'est barré. Donc, avec lui, il y a des centaines de guerrilleros qui sont maintenant avec le PDK de Barzani. Donc ça, c'est une scission importante et douloureuse. Il y a aussi d'autres discussions avec Leyla Zana aussi. Il y a des gens qui disent que le PKK doit se désarmer et donc accepter l'amnistie. Et donc, la direction politique militaire du PKK en discute. Ils sont même prêts de le faire, mais à quelques conditions, quand même pas. On ne peut pas désarmer une force politique militaire qu'on a construite depuis 20 ans et plus. Donc, laisser cela sans qu'il y ait une contrepartie significative, en espérant qu'automatiquement, avec le processus actuel, la situation des Kurdes va s'améliorer, ça, à ma connaissance, ça serait un peu naïf. Et donc, je comprends très bien que la direction politique militaire du PKK dit aujourd'hui, nous voulons de nouveau un cessez-le-feu, mais il faut que ça soit bilatéral. Comment est-ce que vous voulez qu'on fait de nouveau un cessez-le-feu unilatéral, on se fait attaquer par l'armée turque tous les jours, et au lieu de riposter, on s'en va. Il y a eu plus de 300 morts les dernières années du côté de la guérilla kurde à cause du cessez-le-feu unilatéral, parce qu'ils respectent le mot d'ordre unilatéral. Ça veut dire qu'ils sont attaqués, alors ils ne ripostent pas. S'ils ripostent, il aurait eu beaucoup moins de morts, hein, parce que là, l'armée turque ne peut pas faire ce qu'il veut. Mais donc, si c'est unilatéral, ils doivent s'en aller, ils sont tués. Donc, le truc de cesser le feu bilatéral, c'est crucial pour obtenir une solution politique. Si l'armée turque, elle vient d'entrer en Irak il y a quelques jours, ils sont entrés avec quelques milliers de soldats en Irak, dans le nord de l'Irak, pour battre la guérilla du PKK. Donc, est-ce que c'est repris dans la grande presse française? Moi, je ne l'ai pas lu. Hein. Donc, c'est quelque chose, les grandes discussions à l'intérieur du mouvement kurde, c'est dans une situation extrêmement compliquée et dure en Irak, où l'armée américaine, mais aussi iranienne, ou irakienne, ou israélienne, peut faire des opérations, et turc peut faire des opérations contre la guérilla du PKK, tu as une situation en Turquie où il y a quand même une perspective politique avec l'adhésion possible de l'Union européenne. Donc ça mène à des discussions disant il vaut mieux désarmer, dissoudre la guérilla et mettre tout sur la lutte politique en Turquie. Ça, c'est ça un peu la discussion. Hein. Personnellement, je dirais, s'il y a des vrais pas significatifs en avant, on peut aller loin dans la concession en tant que guérilla. Mais si, comme aujourd'hui, et j'ai fait le constat moi-même en début novembre à Diyarbakır, où j'ai visité une école en kurde, où j'ai visité une autre télévision, plutôt commerciale que politique, kurde à Diyarbakır, qui vient d'être interdit pour un mois. Pourquoi? Parce qu'un politicien avait dit en kurde que la Turquie doit reconnaître la langue kurde. Alors, c'est pas, il n'y a pas de pas significatifs qui sont réalisés. Aujourd'hui, il a l'espoir de cela. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose de significatif qui a changé pour la Kurde en Turquie.
Une des critiques aussi qui est faite au PKK, c'est d'être financée en partie par le trafic d'héroïne et de drogue. Et cela pose problème, en particulier en Europe, pour... On ne va pas soutenir une guérilla qui...
Oui, et l'État turc, comment financer l'État turc. Donc s'il faut sanctionner la guérilla du PKK pour du trafic, il faut encore prouver, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de preuve, sinon elle serait sanctionnée. Il faut aussi savoir que l'État turc connaît, je crois qu'il y a plus de 10% du bruto, du produit national intérieur, qu'il y a une zone grise, personne ne sait d'où ça vient. Ça, c'est la drogue, ça. Hein? Donc, si on sanctionne une partie, il faut sanctionner l'autre partie aussi. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a 2 millions de Kurdes qui vivent en Europe et qui sont très attachés à leur peuple et qui sont aussi attachés financièrement à leur peuple. Donc, ils sont prêts à donner une cotisation annuelle pour soutenir le mouvement. Ça peut aller... C'est des associations qui reçoivent l'argent pour... il y a Özgür Politika, un journal en langue turque, mais géré par les Kurdes en Europe. Il y a aussi un journal en Turquie. Il y a une télévision par satellite à côté de Bruxelles. Donc les Kurdes, c'est un peuple très fort qui a beaucoup de moyens de lutte. Donc ce n'est pas seulement la guérilla, ce n'est pas seulement un parti politique, c'est aussi les médias, journal, magazine et une grande télévision par satellite qui est considérée par l'État turc comme aussi dangereux et menaçant que la guérilla du PKK.
Toujours au Kurdistan. Et donc justement, nous aimerions savoir quelle est la place des médias dans la résistance kurde en Turquie.
Avant la télévision, il y avait des journaux gérés par les Kurdes en Turquie. Et donc j'aimerais bien dédier cette émission à un collègue qui est mort, Burhan Karadeniz. C'est un journaliste, c'était un journaliste à Diyarbakır en 92. Qui a reçu une balle dans la nuque, comme il a eu dans cette période-là. Beaucoup de journalistes ou intellectuels ou écrivains qui ont été tués par les forces spéciales en Turquie à cause, parce qu'ils écrivaient, ils utilisaient leur stylo comme arme et ils écrivaient des violations des droits de l'homme de la Turquie contre les Kurdes. Ils écrivaient dans des journaux qui étaient constamment interdits et donc ils étaient régulièrement tués. Et donc, Burhan Karadeniz, comme beaucoup d'autres Kurdes et Turcs de gauche sans nom, ont collaboré, ont assisté à la création d'une vraie média kurde en Turquie qui aujourd'hui n'est plus éliminable. C'est impossible pour l'État turc d'éliminer la presse kurde. Ça peut être une presse en langue turque gérée par les Kurdes ou une presse en langue kurde gérée par les Kurdes. Donc, ce qui est important, c'est que après les journaux, des magazines, des revues qui ont été extrêmement nécessaires pour faire connaître la situation pour les Kurdes, parce que imaginez-vous, quand tu es kurde au Kurdistan de Turquie, tu allumes ta télévision, tu n'as que la vision de la Turquie sur toi. Donc, jamais on va parler d'une manifestation ou d'un rassemblement ou d'une célébration. On va toujours dire que les Turcs de la montagne ont fait ci et ont fait du terrorisme par là. Donc, le fait que l'histoire soit écrite par les Kurdes même, c'est quelque chose de crucial pour la conscience nationale des Kurdes. Donc après les journaux, et là je dois dire quelque chose de unique dans l'histoire du mouvement de lutte de libération nationale, Hein. À ma connaissance, il n'y a que les Kurdes qui ont été capables de mettre sur place, de créer une télévision par satellite. Donc, comme les frontières sont fermées, ils ont utilisé la satellite pour transformer, pour transférer l'information sur les Kurdes, par les Kurdes et sur les Kurdes. Et donc, en 1995, ils ont créé une télévision à côté de Bruxelles, qui existe toujours, qui a eu, qui a eu beaucoup d'obstacles à surmonter. D'abord, l'État turc a utilisé une base de l'OTAN pour brouiller le signal satellite, hein, pour faire en sorte que les spectateurs ne reçoivent pas le signal. Deux, l'armée turque a détruit des milliers et des milliers de paraboles des spectateurs kurdes, parce que la parabole était dirigée vers le satellite d'où venait le signal kurde. Troisièmement, l'Union européenne a aussi réprimé cette télévision à cause de, soi-disant, incitation à la violence. Tandis que la télévision turque a incité à la violence sans limite, n'a jamais eu de problème. Donc cette télévision est d'une importance cruciale parce qu'il y a d'abord 85% de culture, donc la culture kurde, la danse, la musique, la poésie, ils sont très poètes dans la région, hein, c'est transmis par cette télévision et c'est la seule télévision dans la région, c'est pour ça que les gens la regardent. Et deuxième raison, c'est que la vision des choses, hein, la vision kurde des choses, soit d'Abdullah Öcalan ou de Défenseurs des droits de l'homme ou une association de défense des femmes, c'est mis en évidence à la télévision kurde. Donc ce qui est censuré à la télévision turque et dans la télévision européenne, évidemment, c'est mis en évidence à cette télévision kurde. Et donc cette télévision joue un rôle crucial pour de deux côtés. Donc ça raconte le monde aux Kurdes et ça raconte aussi la réalité des Kurdes au monde. Et donc c'est dans un environnement de plein d'obstacles que cette télévision prend naissance. Aujourd'hui, ça fait 10 ans, c'est incroyable, c'est un miracle que ça existe toujours. C'est à cause de leur force, hein. C'est leur force numérique, leur force militante aussi, qui fait en sorte que cette télévision subsiste. Et donc, aujourd'hui, c'est un des critères. Si la Turquie veut joindre l'Union européenne, elle doit permettre qu'il y ait des télévisions kurdes qui émettent, pas à côté de Bruxelles, mais à Istanbul, Ankara et au Kurdistan de Turquie, à Diyarbakır.
Juste avant de conclure, vous êtes belge. Comment en êtes-vous arrivé à travailler pour une télé kurde en Belgique, mais qui émet à travers le monde entier?
Mais je suis avant tout internationaliste. Donc, en 1995, je suis allé à Diyarbakır, c'est la capitale du Kurdistan de Turquie. Et c'était la première fois, c'était pendant les vacances. Je suis allé visiter, voir comment c'était. Et donc, très, très, très vite, j'ai constaté que la répression est tellement féroce. Et aussi, les informations en Europe sur les Kurdes de Turquie étaient tellement une désinformation, on ne parle que du terrorisme, que je me suis dit, bon, on va commencer avec du travail de solidarité élémentaire, genre éditer un bulletin d'information. Deux années après, cette télévision, MedTV à l'époque, cherchait des journalistes kurdes, mais bon, un Belge, ça va encore. Et donc, depuis quand je travaille pour eux et c'est passionnant.
C'était Chris, donc journaliste belge, qui travaille à Proj TV, donc proj.tv. Si vous voulez regarder sur Internet, vous pouvez la voir. Et c'est aussi accessible par le satellite. Donc si vous êtes intéressé par les informations kurdes et que vous parlez un peu kurde, ou il y en a aussi enfin en français, mais enfin c'est pas gagné, vous pouvez regarder cette télévision qui donne donc le point de vue des Kurdes sur le Kurdistan. Voilà, c'était Les Oreilles Loin du Front avec Jérémy aux manettes, Alexandrine à la platine, Guillaume à la musique. Et donc, à la semaine prochaine. Nous allons vous laisser dans les bras des Échos du Capricorne, donc l'émission malgache de Fréquence Paris Pluriel. À la semaine prochaine.